Alors là, ça a été beaucoup plus difficile parce que mes mémoires commençaient à toucher des zones qui n'étaient pas de mon histoire. Donc évidemment, on peut parler d'inconscient collectif, on ramène Jung 5 minutes sur le divan lacanien, on cause, on discute, et après on se dit, combien c'est vrai quand même ça? Est-ce que c'est que collectif ou est-ce que ça me concerne individuellement? Est-ce que je suis juste en train d'attraper comme ça quelque chose du... Ou est-ce que j'ai réellement vécu ces choses-là? Puisqu'elles m'ont l'air tellement réelles dans ma mémoire, elles ont l'air tellement vraies dans mon corps. Et alors là, mon psychanalyste n'a pas suivi. Parce qu'évidemment, on touchait au grand, grand problème de la réincarnation. Et en fait, on touchait au problème de l'origine de la mémoire. Où s'origine la mémoire? Alors, on s'était déjà mis d'accord sur la mémoire qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement la mémoire cellulaire. On s'était mis d'accord sur du préverbal, du cellulaire, une mémoire du corps. Évidemment, à l'époque, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, on sait que cette mémoire cellulaire, elle s'inscrit dans du génétique et on parle d'une mémoire de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, la généalogie est tout à fait à pignon sur rue, tout va bien, à l'époque on n'en parlait pas. Mais en tous les cas, on avait déjà incorporé ce bout-là. Mais finalement, la grande question, et c'est à celle-là que j'ai envie de, soumettre à une réflexion commune, c'est où s'origine la mémoire? Qui va décider où elle commence? Et là, on entrait dans un terrain où on touchait au mystère de ce que Marie Balmary appelle la divine origine, la possible divine origine du sujet. Alors aujourd'hui, c'est à nouveau, il y a déjà des livres là-dessus, mais c'est une question drôlement, drôlement importante. Moi, à l'époque, j'avais inventé un terme, j'appelais ça la mémoire d'âme. Enfin, je l'ai toujours gardé, et je dis aujourd'hui avec le recul que je commençais à toucher à ce que j'appelle aujourd'hui, très tranquillement, la mémoire d'âme. Et que, au niveau de cette mémoire d'âme, nous avons également des choses à réparer, des blessures, c'est peut-être de là qu'est venue l'expression se promener comme une âme en peine, et qu'il y a peut-être aussi des peines d'âme qui n'ont rien à voir, ou plutôt pas directement à voir avec notre histoire biologique du moment, encore que, si on prend le point de vue qui est le mien, qui est un point de vue kabbaliste, encore que notre histoire du moment n'est alors qu'une conséquence de notre passé. Donc, si elle a quelque chose à voir, mais pas de la manière classique de la relation du biologique à notre inconscient, donc qui originerait la mémoire à papa-maman, voire nos ancêtres, et basta. Et donc là, je me suis retrouvée avec ce grand, grand, grand questionnement sur le divan. Et ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire que mon psychanalyste m'expliquait que c'était comme du rêve éveillé. Que toutes ces mémoires, c'était du rêve, c'est comme du rêve éveillé. Il disait pas fantasme parce qu'il était poli et qu'il savait que j'allais réagir très fortement. Mais bon, on n'était pas loin du fantasme. Allez, disons de la fantaisie. La fantaisie psychanalytique. Bien, alors je vais faire court parce que je raconte toute cette aventure dans mon premier bouquin. J'ai décidé d'arrêter ma psychanalyse là, mais sereinement, puisque de toute façon, on avait fait un très beau bout de chemin ensemble. Et c'est là que ma vie a pris une direction plus spirituelle. Et je me suis dit, je vais aller chercher dans le silence intérieur les réponses que je ne trouve pas à l'extérieur de moi-même. J'ai commencé tout un chemin de méditation, je suis allée très loin, bon, tout ça, je fais un petit peu court. Et je me suis engagée dans tout ce qu'on pourrait appeler les traditions non dualistes. Ma tradition, c'était l'Inde. De toute façon, à l'époque, c'était l'Inde, la mode. Bah oui, c'est pour ça, c'est aussi un témoignage vraiment d'époque, parce que aujourd'hui, tout le monde est bouddhiste. Enfin, aujourd'hui, c'est le bouddhisme, mais à l'époque, c'était l'hindouisme. Donc, on prenait son petit baluchon, on partait sur les bords du Gange en espérant trouver les solutions auxquelles ne répondaient pas nos parents, mais nos psychanalystes non plus, et nos thérapeutes non plus. Et moi, j'étais arrivée à l'endroit où mon psychanalyste disait « Stop ! Là, non seulement je ne veux pas répondre, mais je ne veux pas envisager la question. » Et ça, c'était... Donc, quand on n'ait pas de réponse là-dessus, c'est tant mieux. mais qu'on ne veuille pas garder cela comme un point d'interrogation empêche d'explorer ce territoire. Et ça, c'est ce qui m'est, moi, le plus insupportable. Parce que avoir dans le Talmud, qui est un petit peu donc mon background, on dit que la réponse est le tombeau. Effectivement, d'avoir des réponses, ça limite, on est arrêté. Mais que les psychanalystes ne veuillent pas garder le point d'interrogation sur la question, ça, c'était pas acceptable. C'est pour ça qu'il fallait que j'aille chercher ailleurs. Donc, petit baluchon. Les bords du Gange, en fait, je n'ai pas dû aller jusqu'au bord du Gange, le Gange est venu vers moi, car j'ai rencontré un maître indien, et j'ai commencé donc tout un chemin d'études de philosophie orientale, et puis de pratique, et d'assaise, et d'assise, jusqu'au moment où je suis allée jusqu'au bout, et j'ai été jusqu'à prendre la robe orange. Donc c'est pour vous dire que je suis vraiment allée jusqu'au bout. Donc en 82, j'ai pris la robe orange, j'avais eu une grande expérience d'illumination, c'est-à-dire où réellement j'avais touché l'endroit où il n'y a pas de frontières, où il n'y a plus de frontières et où on se dit, s'il n'y a plus de frontières, c'est qu'il existe une mémoire qui est universelle, mais dans laquelle je baigne et de laquelle je suis issu, divine origine, et donc dont je suis porteur et qui a pu causer ce que j'appelle cette réalité de l'âme en peine que j'ai aussi à aller regarder. Mais j'avais découvert en même temps que l'âme en peine, pendant ces méditations, qu'il y avait aussi une âme en joie très forte. Car je n'ai pas besoin de vous dire qu'à partir du moment où on entre dans ces lieux-là, je touchais à ce qu'on appelle très classiquement les extases mystiques. Je fais vite parce que j'ai 50 minutes, donc je fais très très vite. Donc excusez-moi d'être un peu grossière et didactique sur les termes et de ne pas les expliciter au passage, mais vous comprendrez que ce n'est qu'ouvrir le débat.